Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire des mots pour le dire, Méandre de l'amour, Eros et Agapé, livre de Michel Théron, paru aux éditions Dervy. On suit les méandres de semaine en semaine avec vous Michel. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Et donc aujourd'hui vous nous proposez d'aborder un nouveau paragraphe de ce livre qui s'intitule « Amour et perspective ». Et avant de vous céder la parole, j'aimerais comme toujours faire quelques citations autour de justement de l'amour et d'aimer. La première, c'est « Savoir aimer, ce n'est pas aimer. Aimer, c'est ne pas savoir ». C'est Marcel Jouandeau qui dit ça. Ensuite, « Aimer, c'est bien. Savoir aimer, c'est tout », de Chateaubriand. Et enfin, il a été donné à l'homme de penser pour savoir aimer, le sait-il. Il a été donné à l'homme de penser pour savoir survivre, survit-il vraiment. C'est Yves Thériault dans son livre Ntsuk. Voilà, donc, pour amorcer cet nouvel épisode d'aujourd'hui.
Voilà, je suis tout à fait d'accord avec la deuxième citation que vous avez citée, hein, que vous avez mentionnée, savoir aimer, Chateaubriand, hein, oui. Est supérieur à aimer. Effectivement, l'amour s'apprend, il me semble, hein, cette affaire de connaissance, ou de gnose, si vous voulez, gnosis, la connaissance. Hein. Il y a un livre d'Éric Fromm que j'ai déjà signalé, qui s'appelle « L'art d'aimer », hein, ça n'a rien à voir avec le livre d'Ovide, hein, le recueil d'Ovide, « L'art d'aimer », où Fromm nous dit que on peut faire des choses catastrophiques, aboutir à des choses terribles, si vous voulez, si on ne sait pas aimer, hein, parce que on peut effectivement, avec les meilleures intentions du monde, si on n'a pas réfléchi à la problématique de l'action, aboutir à des conséquences imprévues au départ. Hein, et comme le disait Solzhenitsyn, tous nos crimes sont des crimes d'amour, si vous voulez. Hein. Vous savez que dans la fable de La Fontaine, l'ours est l'amateur des jardins, l'ours qui est l'ami du jardinier, quand le jardinier fait la sieste, voit une mouche se poser sur le nez du jardinier, eh bien il prend un énorme pavé, il casse la tête à l'homme en écrasant la mouche. Alors je dirais que cet ours est plein de meilleures intentions du monde, il aime son ami le jardinier, mais il est sot, il est bête, il n'a pas réfléchi, donc il manque de connaissance. Hein. Donc en bon gnostique, je défends toujours la gnose ou la connaissance. Hein. Voilà pour cette introduction, ce point de vue liminaire. Et maintenant, nous entamons la partie intitulée « Amour et perspective ». Toujours dans la deuxième grande partie, « Agapé ou l'amour de don », mon livre comprend trois parties. Premièrement, « Eros ou l'amour de désir ». Deuxièmement, « Agapé ou l'amour de don ». Et troisièmement, « Du bon usage de l'amour ». Nous sommes là dans la deuxième partie, hein, « Amour et perspective ». Alors, où l'amour est le sens du futur, la représentation du futur, c'est ce qui nous arrache à l'instant présent. L'homme est capable de projeter, de se projeter dans l'avenir. Hein. Alors, tout le monde connaît, vous la connaissez bien sûr, Edouane, le mot célèbre de Saint-Exupéry, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. » Alors, des fois, je me dis, est-ce que cela veut dire regarder ensemble la télévision? Mais je vous vois opiner du chèvre. Non, alors là, c'est un signe de manque d'amour, finalement, hein, regarder la télévision ensemble. Et là, l'amour, s'anéantit dans la banalité quotidienne. Hein, et ça arrive très souvent à ceux qui ont formé un couple à partir d'Eros, à partir du désir lui-même, avec au départ peut-être l'ambition d'une vie fusionnelle, hein, symbiotique. Mais ces gens-là, souvent, sont séparés par le déroulement du temps, hein, qui ronge tout et qui détruit tout. Hein. Il y a un humoriste, je ne sais plus lequel, disait à propos de sa femme, « Au début, je lui aurais décroché la lune, maintenant je ne lui change même pas une ampoule. » Vous voyez, hein. Donc, hélas. Hein. Alors effectivement, on peut regarder la télévision ensemble, ou bien jouer aux cartes, tenez, dans une vie de Maupassant, Et un chapitre commence par la phrase suivante. Les cartes entrèrent dans la vie des jeunes gens. Hein. Alors, quand deux amoureux se mettent à jouer aux cartes, Redouane, c'est un peu dommage, non? Vous trouvez pas?
Tout dépend si le jeu de cartes est le lieu de la sociabilité, de la découverte. C'est vrai qu'il y a des couples qui aiment jouer. J'en connais en particulier. Oui. Le jeu est assez stimulant. Maintenant, si le jeu est un prétexte pour combattre l'ennui, c'est autre chose. Donc là,
absolument.
On est...
dans le cas de l'héroïne de Maupassant, qui s'appelle Jeanne, dans une vie, elle a été amoureuse folle, en quelque sorte, de l'homme qu'elle a épousé, et après, tout s'est détruit, tout s'est délité. Hein. Et alors, les cartes entrèrent dans la vie des jeunes gens, ça veut dire qu'ils s'ennuient. Ils s'ennuient l'un avec l'autre, et donc ils jouent aux cartes. Alors, malgré ce que je viens de dire, la phrase de Saint-Exupéry, elle a une très grande portée. Hein. Il me semble que aimer de façon mature, dans le cadre d'Agapé, c'est se fixer mutuellement un projet, c'est s'engager ensemble dans la volonté de construire quelque chose. Et comme une plante a besoin d'être arrosée pour grandir, l'amour a besoin d'attention constante. Et le ciment de l'amour, c'est la perspective qu'on se donne au départ et à laquelle on se tient quotidiennement. C'est ça, regarder ensemble dans la même direction. Alors, qu'est-ce qui est essentiel ici? Eh bien, c'est le langage, parler d'amour. Hein. À cette notion de perspective sert éminemment la parole. Par le serment, la promesse, l'engagement qui remplace le désir et l'envie immédiat que je peux avoir de l'autre, par la représentation mentale d'autre chose que ce que je perçois ici et maintenant, hic et nunc. Hein. Exactement comme dans le langage, un mot n'est pas la chose même qu'il désigne, mais l'évocation de la notion, l'appel à venir, en latin evocare qui a donné évocation, l'appel à venir des choses dans une absence qui est au fond supérieure à toute présence. Là, je vais faire une petite parenthèse, mais je ne sors pas de mon sujet. Supposons que je dise dans l'absolu, par exemple, quelque chose comme « la neige tombe, la cloche sonne dans le silence du soir ». Je ne vois pas réellement tomber la neige, je n'entends pas réellement sonner la cloche. Et pourtant, par la magie du verbe, la neige et le son de cloche sont bien présents en moi, au fond de moi. Heidegger, qui prend cet exemple, hein, dit dans un livre qui s'appelle « Acheminement vers la parole » que « nommer est appel hein. ». Or, quelle présence est la plus haute? Est-ce que c'est la présence de ce qui s'étend sous nos yeux, c'est-à-dire de ce que nos yeux voient, de ce qui se passe dans la perception physique, hein, ou bien la présence de celle qui est appelée dans le langage, par l'intermédiaire des mots? Alors, il y a une paradoxale mais essentielle présence-absence inhérente aux mots. Hein. Et il faut noter le poids que l'attente donne aux choses grâce à leur représentation dans l'esprit. Représentation verbale, par exemple. Alors là-dessus, Paul Valéry a écrit un très beau poème qui s'appelle « Les pas » dont tous les amoureux feraient bien de s'inspirer. Je vous le lis. Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placés, vers le lit de ma vigilance, procèdent muets et glacés. Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux, tes pas retenus, Dieu, tous les dons que je devine, viennent à moi sur ses pieds nus. Si de tes lèvres avancées tu prépares pour l'apaiser, à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. C'est très beau à la fin, le passage du « tu » au « vous hein, », c'est ce qu'on appelle une énalage pronominale en rhétorique. Hein. Eh bien, je pense que c'est quelque chose de magique. Hein. Quelqu'un que l'on tutoie quotidiennement, à certains moments, on peut lui dire « vous » pour retrouver la magie du commencement. Mais en tout cas, dans ce poème, on voit les vertus de l'attente. Et on ne fera jamais assez, à l'attention de ceux qui veulent aimer, l'éloge de l'attente. Vous voyez, il faut attendre. Plus on attend, eh bien, plus le plaisir que l'on recevra sera important, sera grand. L'attente décuple le désir, exacerbe le désir. Et les mots appartiennent de la même façon au monde de l'attente. Les mots ne sont pas les choses. Hein. Le mot chien n'aboie pas, par exemple. Pas plus, d'ailleurs, que les images ne sont les choses. Vous savez que Magritte, par exemple, peint une pipe avec beaucoup de réalisme et écrit en dessous « Ceci n'est pas une pipe hein. ». Ce qui veut dire que c'est simplement l'image d'une pipe. Mais le paradoxe de tous les langages, qu'ils soient verbaux, ou iconiques, hein, c'est que la représentation des choses est plus importante que la chose elle-même. Hein. Puisque les signes du langage, alors prenons quelques langages que ce soit, hein, sont, pour reprendre l'expression de Paul Valéry, sont et ne sont pas. Hein, et c'est de là qu'ils tirent leur force. Ils sont les fruits d'une anticipation, d'une espérance intérieure. Et donc ils touchent l'être dans une zone beaucoup plus profonde que la sensation immédiate. Parce que la sensation immédiate, celle de la perception réelle, effective, physique des choses, disparaît aussitôt qu'elle est assouvie. Et c'est aussi le cas dans l'amour. Hein. Le mot même « amour », justement, a une force de transcendance, une force archétypale dont nous devons nous faire les serviteurs, en quelque sorte. Alors vous voyez, Redouane, je suis agnostique personnellement, mais je crois à une transcendance. Peut-être est-ce que c'est ma formation littéraire et mon amour de la littérature qui me pousse à y croire, mais la seule transcendance à laquelle je crois, c'est à celle du langage. Remarquez que le prologue de Jean le dit très bien. Au début était le logos, hein, était le logos. On peut prendre le sens de logos, langage. Au début était la parole, voilà, la parole. Hein. Alors la transcendance des signes par rapport à nous se manifeste dans ce que j'appellerais la lieutenance qu'ils incarnent. Ils tiennent lieu d'eux. Hein. Les signes verbaux principalement, iconiques aussi, comme je l'ai dit, tiennent lieu des choses. Pour l'image, pensez par exemple à l'admirable jonction des mains dans le tableau de Rembrandt, La fiancée juive. Hein. Ces mains qui sont ainsi peintes, c'est-à-dire représentées hein, en peinture, ces deux mains hein, jointes disent deux mains, hein, à jamais. Hein. Alors vous voyez, il y a peut-être une erreur fondamentale dans la phrase de Pascal, si on la ponctue de la façon suivante. Quelle vanité que la peinture, virgule, qui attire l'admiration par la ressemblance des choses dont on n'admire point les originaux. Si on la ponctue ainsi, avec une virgule après peinture, hein, cette phrase condamne la peinture en général. Maintenant, si on ne met pas de virgule, quelle vanité que la peinture qui attire l'admiration, il s'agit simplement de la peinture de trompe-l'œil. Hein. Mais si il y a la virgule, si c'est la peinture en général qui est condamnée, eh bien, cela est faux. Hein. L'affirmation est fausse. En effet, on ne voit jamais si bien les choses qu'en les voyant dans l'esprit ou bien dans le cœur, comme le dit Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, disait Saint-Exupéry. Alors, la représentation des choses a une vertu, une prégnance, quelque chose de probant hein, que n'a pas la chose elle-même. Et on ne les voit jamais si bien, ces choses, que dans leur simulacre, hein, qu'ils soient peints ou qu'ils soient imaginés, qu'ils soient songés. Et alors, comme ils tiennent lieu des choses, les signes permettent l'anticipation de ce qu'ils désignent par la représentation et la projection qu'ils en font dans l'esprit. Et cette représentation implique le sens du futur, la dimension de perspective, par quoi peuvent bien se définir non seulement agapé, mais même en général tout processus de culture ou de civilisation. Toute civilisation, disait Paul Valéry, est perspective. Alors, par exemple, Redouane, je prends l'exemple de quelqu'un qui déclare son amour à quelqu'un. Voilà, qui déclare son amour. Ça se dit une déclaration d'amour. On déclare aussi la guerre, hein, c'est vrai, on déclare, voilà. Bon. Déclarer son amour à quelqu'un, à supposer que le langage soit sincère, bien sûr, car le langage peut être perverti et manipulé, eh bien, déclarer son amour, dire à quelqu'un qu'on l'aime, nous engage beaucoup plus que nous serrer contre lui ou contre elle, ou bien de lui prendre la main. Alors, je sais bien qu'il y a un langage du corps, mais le langage du corps se situe dans le présent, essentiellement. Il implique beaucoup moins l'anticipation, la perspective, le futur, que le langage verbal. Pourquoi ? Parce que le langage verbal n'opère pas immédiatement, mais par relais. et ses relais, ses écrans, ses filtres représentatifs et instituants créent en nous paradoxalement un type de présence supérieur à celui de la perception directe des choses. Alors voyez, Redouane, je vous pose une question. Si je vous dis « sur le pont d'Avignon », à quoi pensez-vous, Redouane,
hein? On y danse.
Voilà, on y danse, oui, on y danse, oui. On y danse. Donc ça veut dire que vous ne pensez pas au pont qui se trouve à Avignon, le pont Bénézé, qui est à moitié coupé, je crois, à moitié détruit, hein, voilà, à moitié détruit, mais vous pensez à la chanson sur le pont d'Avignon.
Tout à fait.
Voilà. Donc le pont réel physique qui est à Avignon a été vaincu, hein, par une chanson enfantine. Il y a le triomphe de la chanson sur le réel, vous voyez.
Tout à fait.
Voilà. Donc, ça montre bien la transcendance du langage. Ça montre bien que le langage, qui procède par des signes représentatifs à valeur symbolique, eh bien, triomphe du monde physique ou du monde réel. Alors, le langage nous engage beaucoup plus que tous nos actes réflexes et instinctifs. C'est facile de prendre la main de quelqu'un, mais c'est beaucoup plus difficile de verbaliser et de dire « je t'aime ». Et en outre, le langage des gestes seul et brut n'est pas exempt d'égocentrisme. On peut prendre la main de quelqu'un, se serrer contre quelqu'un par réflexe quasi animal, pour avoir plus chaud si vous voulez, hein. Et regardez ce que dit Montaigne à propos de sa chatte. Il dit « Quand je me joue à ma chatte, qui sait si elle ne se joue pas plus de moi que moi d'elle ?» Alors, il y a des gens qui disent « J'aime bien les chats parce qu'ils sont affectueux, ils viennent nous caresser ». Je me pose la question suivante. Est-ce que le chat nous caresse, ou bien est-ce qu'il se caresse à nous, vous voyez, hein? Donc il y a peut-être là quelque chose d'égocentré, entre guillemets, hein, de la part du chat. Alors, comme première virgule musicale, j'ai choisi une chanson de Piaf qui s'appelle « Les mots d'amour », puisque tout autant nous parlons du rôle du langage dans l'amour.
Ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce qu'il me disait comme joli mot d'amour et comme il les disait. Mais il ne s'est pas tué car malgré son amour, c'est lui qui m'a quitté. Sans dire un mot, pourtant des mots, il y en avait tant, il y en avait trop. C'est fou. Ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, partais, me quittais pour toujours. C'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. Voilà qu'aujourd'hui ces mêmes mots d'amour, c'est moi qui les redis. C'est moi qui les redis avec autant d'amour à un autre que lui. Je dis des mots, parce que des mots, il y en a tant, il y en a trop. C'est fou ce que je ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, ça je peux te le jurer. Si jamais la 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 la, c'est sûr que la 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 la, mon amour. Au fond, ce n'était pas toi, comme ce n'est même pas moi qui dis c'est mon amour. Car chaque jour ta voix, ma voix ou d'autres voix, c'est la voix de l'amour. Qui dit des mots, encore des mots, toujours des mots, les mots d'amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, mon amour, si jamais tu partais, c'est sûr que j'en mourrais. C'est plus ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer d'amour.